RCF.
Bonjour, je m'appelle Philippe Amouyel, je suis professeur de santé publique au Centre hospitalier et universitaire de Lille. Je suis médecin et ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille.
Philippe Amouyel, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans le Tour de la Question. Vous êtes une grande voix médicale de notre région de Hauts-de-France, encore plus écoutée ces derniers temps avec le Covid. Et vous êtes aussi un éclaireur très engagé dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Alors merci de vous être prêté au jeu de nos échanges pour faire connaissance avec vous autrement. Hein. Et vous allez vous laisser conduire par des questions que vous piocherez dans cette boîte là qui est devant vous. Elles sont parfois décalées, insolites, inattendues, mais c'est tout le piment de cette émission. Et puis vous êtes, je crois, venu les mains pleines, hein, avec un objet, un livre, un morceau de musique, voilà, tout pour avoir un échange riche et chaleureux. Alors je disais, Philippe Amouyel, vous êtes un épidémiologiste de renom international. Vous avez dirigé l'Institut Pasteur pendant 9 ans. Actuellement, vous le disiez, vous êtes directeur de santé publique, hein, au CHR de Lille. Et vous menez aussi un combat scientifique et médical pour trouver des réponses à cette maladie d'Alzheimer. Accessoirement, vous avez publié plus de 800 articles scientifiques dans des revues internationales. Excusez du peu. Alors, remontons à la source, Philippe Amouyel, à votre période de post-bac. À ce moment-là, vous étiez en prépa de grandes écoles, puis vous faites un virage soudain vers la médecine. Quelle mouche vous a piqué à ce moment-là ?
Alors, c'est pas vraiment un virage soudain. J'avais toujours été passionné, même petit, par les sciences biologiques, par la santé des gens, et j'avais un père médecin. Qui espérait que je ne ferais pas médecine et donc m'avait enclin à aller vers les écoles d'ingénieurs et à m'inscrire en classe préparatoire.
Oui, papa.
Et donc, bien, papa. Au bout d'un an, voilà, j'ai fait le test. Je suis bien sûr que je ne veux pas aller là. Et je suis allé m'inscrire en première année de médecine.
D'accord. Donc, c'était vraiment votre souhait que vous portiez depuis déjà un bon moment
ou... Oui, depuis longtemps.
Depuis longtemps, c'est quoi cette étincelle qui vous a...
Je ne sais pas, j'ai grandi en Normandie à la campagne et on était vraiment à la campagne à l'époque.
Oui.
Des mares, on jouait avec les petites grenouilles, on s'amusait, je faisais commencer la biologie, je m'intéressais aux plantes, à tout ce qui concernait le vivant, on va dire, d'un mot. Et ça me passionnait toujours, j'étais toujours intéressé par ces éléments. Et puis, alors, certes, les mathématiques, tout ça, ça se passait pas trop mal, mais c'était pas le même intérêt que j'avais pour le vivant d'une manière générale.
Et puis finalement, ça vous a bien servi après pour la suite, puisque toutes les modélisations que vous pouvez faire sont à base mathématique et scientifique.
Et oui, parce que en fait, à peu près 12 ans plus tard, je suis rattrapé par les mathématiques.
Ah, quand même.
Et oui, puisque j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui s'appelait Jean Samaille, qui dirigeait l'Institut Pasteur de Lille à cette époque-là, et qui s'était intéressé à moi. Il me conseillait, il me disait, faudrait faire ci, faudrait faire ça. Puis à un moment, il me dit, il avait pris la chaire de santé publique, il me dit, si vous voulez faire de la santé publique, ok, on peut essayer de trouver un poste. Et il me dit, mais avant, il faut que vous formiez à la santé publique. Vous m'avez envoyé à Paris. Un DEA de mathématiques appliquées. Et donc, je me suis remis, 15 ans après, à refaire des mathématiques. Et ce bagage que j'ai acquis à l'époque m'a été extrêmement utile.
Et puis, votre père a peut-être été, du coup, content ou rassuré.
Mais mon père a toujours été content, toujours rassuré de ce que je faisais. Ce qu'il ne voulait pas, c'est que je revive peut-être les affres de ce qu'il avait dû vivre en tant que médecin.
Médecin de campagne, peut-être.
Alors, il était médecin de ville. Et puis, j'étais né en Algérie. Il est rentré au moment de l'indépendance et a un peu errer sur la fonction médicale pour travailler finalement à l'assurance maladie.
Alors revenons à aujourd'hui. Vous êtes un fin observateur de la pandémie actuelle qui compte près de 15 millions de décès dans le monde. Alors c'est une des plus grandes pandémies de notre histoire finalement. Quelle lecture faites-vous de notre monde, de l'existence à la lumière de cet événement planétaire, en quelques mots?
Je crois que cette épidémie a eu plusieurs mérites. Si j'ose dire, parce que c'était un drame permanent, c'est de remettre l'être humain et la santé au cœur des préoccupations des gens. tout un tas d'activités, on va dire légères, sympathiques, ont complètement disparu. Ça a été un vrai drame, mais on est revenu vers les vraies questions de santé, de prévention, de l'importance finalement d'être en bonne santé pour que la société fonctionne bien.
Je vais vous inviter, Philippe Amouyel, à continuer à votre rencontre, mais là, au travers des questions que vous allez tirer de cette boîte à questions. Alors, laissez porter votre main. Sur quoi que dit-elle ?
À votre mort, quelle épitaphe souhaiteriez-vous inscrire sur votre tombe ?
Mon Dieu.
Ah ouais, c'est violent, surtout en période de, en période de Covid. Bah écoutez, j'y ai pas encore pensé. Parce que... voilà, Beaumarchais disait, si vous voulez faire de grandes choses, il faut vivre comme si vous ne deviez jamais mourir. Donc voilà, on va passer cette question. Sinon, j'aurais pu demander à mon ami Philippe Héraclès, qui est le directeur des éditions du Cherche Midi, qui lui est un spécialiste de la création d'épitaphes.
Ah, donc, bon. On va en prendre une autre alors. On va en prendre une autre.
Quel est le lieu, l'endroit sur notre planète dans lequel vous vous retrouvez le plus et le mieux ? Eh bien, très simplement, chez moi, en famille, à Lille, dans cette belle région qui sont les Hauts-de-France. C'est là où je trouve à me ressourcer avec ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Voilà. C'est l'endroit où je me sens le mieux.
Voilà, ça c'est magnifique. Oui. Donc c'est un endroit de lien, de relation.
Oui, d'une manière générale, oui. Hein. J'ai longtemps réfléchi à la question que vous m'avez posée de réfléchir à un objet. J'anticipe un petit peu, mais vous allez comprendre. Et en fait, je suis assez peu attaché aux objets. Je suis attaché aux objets dans le sens où ils représentent, ils incarnent quelqu'un ou un être cher. Donc ce que j'aime d'abord, ce sont les êtres chers. Les objets ne sont que des objets transactionnels pour les représenter. Mais ce qui est important pour moi, ce sont les gens et les individus, ceux de ma famille, ceux de mon entourage, les patients, la population. Voilà. La vie humaine se fait avec
vous
les êtres humains.
Vous êtes dans la culture du lien. Finalement.
Complètement, puisqu'il faut savoir, hein, alors là je reprends ma casquette de spécialiste de l'Alzheimer, que ce qui stimule le plus le cerveau, ce sont nos relations sociales. Ouais. La solitude, l'isolement sont extrêmement délétères pour le cerveau. On a besoin de discuter, de parler avec les gens, et ça aussi, ça a été un des gros problèmes de cette épidémie, avec les confinements qui ont cassé ces liens sociaux. Il est absolument essentiel de les maintenir.
Et vous avez tout à fait raison, et c'est un point... ultra important que vous évoquez. Mais alors vous nous mettez un peu l'appétit à la bouche en nous parlant de l'objet comme étant un élément transactionnel. Et vous alors, puisque je vous avais proposé de venir avec un objet, vous pouvez lever le voile sur l'objet qui vous représenterait.
Eh bien justement, comme il y en a qui représentent mes parents que j'ai perdus, mes enfants, j'ai pas pu en choisir un ce matin.
Oui.
Et vraiment l'objet, c'est ce qui m'importe le plus au travers de l'objet, c'est les gens. Donc j'allais pas venir avec toute ma famille.
Oui, oui, oui.
Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai pas ramené d'objet parce qu'aucun n'aurait représenté celui qui m'est le plus cher. Ce qui m'est le plus cher, c'est vraiment cette relation aux autres.
Voilà, c'est, on va dire, peut-être une photo de famille.
Ça pourrait être une photo de famille, tout à fait. Mais même une photo de famille, il y a d'autres personnes extérieures à la famille, mes amis, avec qui j'ai plaisir à chaque fois à être et à vivre.
Vous avez peut-être vu cette exposition de, je crois que c'était Artus Bertrand, sur les peuples du monde entier où on posait toujours la même question, c'est pour vous, c'est quoi le bonheur, que ce soit un Japonais, un Américain, un Africain, et voilà, ils répondaient chacun avec leur culture. Et alors il avait fait des grandes affiches où on ne voyait que des visages humains, et c'était très beau.
Et oui, parce que c'est ça qui est important.
C'est ce que je vous offrirai alors, une affiche d'Artus Bertrand.
Merci.
Allez, allons-y pour une petite question encore avant de prendre une petite pause musicale.
Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois au décès de ma mère? Voilà, c'est juste ça.
Mais oui, c'est juste ça. Et qui mérite tout ce temps du souvenir. Allez, on reprend une autre question qui soit plus porteuse.
Votre dernier bel échec? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'il y en a beaucoup. Pour réussir une chose, il faut en rater 10, hein, à peu près.
Oui.
Je pense que c'est justement dans les alertes qu'on a posées à chaque fois qu'il y avait des vagues. C'est de ne pas avoir trouvé la voie. Je l'ai trouvé par la suite, hein, et je vous explique. C'est de l'alerte et de l'anticipation. En prévention, ce qui est important, c'est d'anticiper les choses. quand on fait une projection ou une modélisation, c'est pas pour que cette modélisation survienne, c'est justement pour qu'elle ne survienne pas. Généralement, les gens se concentrent en disant « on va vers l'hospital ». Non, ce qu'il faut, c'est tout mettre en œuvre pour ne pas y arriver. Et donc, on peut considérer finalement que l'alerte que j'avais donnée pour la deuxième vague au mois de septembre, qui s'est traduite quand même par une vague au mois d'octobre, c'est quelque part un échec. Les gens disant « mais voilà, on atteint des chiffres, c'est pas possible, c'est un mur ». Ou inversement, après disant, bah voyez, on ne les a pas atteints. Mais je leur dis, moi, ce qui m'importe, c'est que ma projection ne se réalise pas. C'est pour ça que je la fais. C'est pour qu'elle ne se réalise pas et qu'on prenne les mesures avant.
Et ça, les gens ne comprennent pas, ça.
Et non, parce qu'en fait, ils imaginent ça comme une prédiction. On ne prédit rien, on ne peut pas prédire l'avenir. On le construit, mais c'est une projection. C'est-à-dire un modèle mathématique qui dit ce qui va se passer si toutes les choses sont identiques à ce qu'elles sont. Et ce qui est important, c'est de les changer maintenant pour justement faire en sorte que cette projection ne se rapporte plus.
Et ça, vous n'êtes pas toujours entendu là-dessus.
Ça commence à venir. Je dois reconnaître qu'à partir de la quatrième vague, j'ai pu constater finalement que le gouvernement, cet été, a tout de suite pris des mesures dès qu'on a vu augmenter un certain nombre de cas. C'était à peu près au mois de juin, dans les Landes en particulier. Il y a eu un EHPAD, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a présenté un certain nombre de cas positifs. Et là, il y a eu un travail. On s'est rendu compte que c'était Delta avant la vague. Et on a plutôt anticipé. On a anticipé la vaccination. On commence à anticiper beaucoup de choses.
On va se donner un temps de pause après tous ces échanges qui sont déjà très denses. Vous avez choisi pour cela un titre Made About You, hein, fou de toi, c'est ça, hein, de Overphonic. Hein. Voilà. Pourquoi ce choix ?
Alors c'est un groupe belge qui est pas très très connu, qui a d'excellentes voix. Moi, je l'écoute surtout dans ma voiture quand j'arrive ou quand je rentre le soir. Et voilà, vous allez l'écouter. Vous me direz ce que vous en pensez, vous aussi.
Allons-y, alors.
Le tour de la question, Patrice Rouher.
Nous poursuivons avec Philippe Amouyel, qui est une grande voix médicale de notre région des Hauts-de-France, hein, qui plus est épidémiologiste de renom international et aussi un ardent acteur contre la maladie d'Alzheimer. Alors, Philippe Amouyel, je vous propose de continuer et de plonger votre main dans cette boîte à questions. Et là, silence.
Quel est votre mot préféré ?
Ah !
Alors, oui, j'ai un mot préféré.
Ah oui ?
C'est le mot préféré de Louis Pasteur. Oui. Et Louis Pasteur disait que son mot préféré, c'était le mot enthousiasme.
Ah, c'est beau ça.
Parce que, étymologiquement, enthousiasme, ça veut dire Dieu intérieur, entheos.
Ah oui.
Donc je crois que c'est le mot préféré. Ce que j'aime, c'est que mes collaborateurs soient enthousiastes. J'adore être enthousiaste, m'enthousiasmer de tout. C'est ce qu'avait repris Louis Pasteur en disant que le plus beau mot, c'était le mot enthousiasme, Dieu intérieur.
Et j'aime bien cette définition, mot Dieu intérieur. Beau ça, oui. Allez, continuons avec une autre question, parce que vous apportez là des éclairages qui sont...
Quel est le jour calendaire, quel est le jour de l'année calendaire que vous aimez le plus, que vous aimez le moins ? Celui que j'aime le plus, je crois que c'est le 21 juin, le jour de l'été.
D'accord.
Ouais. Voilà. Et puis le moins, alors c'est personnel, malheureusement, c'est le 24 décembre, c'était le jour du décès brutal de mon père. Ce sont les deux jours.
Et puis en plus, un 24 décembre.
Voilà, c'est ça.
Et donc ça se télescope entre le temps de famille et puis ce départ. Allez, une autre question avant d'aborder.
Qu'est-ce qui vous fait sourire ? Tout. tout me fait sourire. Tout me fait sourire. Ce qui est important, c'est justement de garder le sourire, même dans les situations difficiles. Je crois qu'il est important de conserver du recul et du sourire. Donc tous ces éléments sont absolument essentiels pour être bien, parce que pour résoudre des problèmes, il faut être bien dans sa tête et les aborder facialement, mais sereinement.
Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais vous avez les yeux qui sourient. Alors, vous êtes venu aussi avec un livre qui vous a particulièrement marqué, qui a peut-être été même très décisif pour vous, dans votre cheminement de vie.
Alors, c'est un livre... Alors, il y a beaucoup de livres que j'aime, ça, c'est un point. Mais c'est un livre que je relis toujours à plaisir, que je lis depuis extrêmement jeune, depuis que je suis adolescent. C'est Les derniers poèmes d'amour de Paul Éluard. L'intérêt, c'est que vous pouvez le prendre, vous pouvez le lire, et puis vous y découvrez toujours des significations différentes. Et la force de Paul Éluard m'avait marqué sur une phrase qui était vraiment prémonitoire. Un de ses poèmes, il y a un vers, il dit « La terre est bleue comme une orange ». Alors, c'est une image extrêmement forte, mais quand vous voyez ce que voit Thomas Pesquet de sa station spatiale, c'est exactement ça. Et c'était bien avant qu'on ait réalisé cette conquête de l'espace. Et à chaque fois, dans ses textes, il a une façon de dire les choses à laquelle, au moins, je suis sensible et qui est toujours nouvelle. Par exemple, il y a un peintre que j'aime beaucoup, qui est Marc Chagall. Et il y a un poème sur Marc Chagall. Quand vous lisez le poème, vous avez l'impression de voir un tableau de Marc Chagall. Donc c'est cette force de la poésie, c'est-à-dire c'est toujours renouvelé, vous pouvez toujours le lire sans jamais vous lasser. Donc c'est celui que j'ai depuis toujours.
Allez-y, de Marc Chagall. Rêvons.
À Marc Chagall. Âne ou vache, coq ou cheval, jusqu'à la peau d'un violon, homme chanteur, un seul oiseau, danseur agile avec sa femme, couple trempé dans son printemps, l'or de l'herbe, le plomb du ciel séparé par les flammes bleues, de la santé de la rosée, le sang cirise, le cœur teinte. Un couple, le premier reflet, et dans un souterrain de neige, la vigne opulente dessine un visage aux lèvres de lune qui n'a jamais dormi la nuit. Et vous retrouvez
les tableaux
de Marc Chagall.
Avec toutes ces scènes, en fait, toutes qui se juxtaposent.
De couples, d'animaux, de nuit, de...
Alors, une dernière question avant que moi je me fasse le porte-parole des auditeurs.
Qu'est-ce qui vous fait battre le cœur à la chamade ? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui fait battre le cœur à la chamade, c'est les succès dans les débuts de la vie de mes petits-enfants.
C'est chouette.
Ils sont petits, il y en a une qui a 6 ans et demi et puis l'autre a 2 ans et demi. Et voilà, chaque fois qu'ils réussissent une étape, qu'ils marchent, qu'ils se mettent à parler, qu'ils comprennent quelque chose, voilà, c'est ça qui me fait battre mon cœur actuellement.
C'est un éveil à la vie.
Tout à fait, c'est une naissance, c'est une prolongation dans le temps. C'est...
Alors, ça vous parle d'autant plus que vous êtes un homme très enthousiaste.
Toujours,
habité par l'enthousiasme. Donc, voir des petits-enfants comme ça, plein d'espérance et d'appétit de vie, ça doit vous mettre en joie.
Voilà, c'est ça, c'est ce qui fait battre mon cœur.
À mon tour aussi de me faire le porte-parole de nos auditeurs, en vous proposant 3 questions, parce que vous êtes sur RCF, tout simplement. J'ai envie de vous demander, Philippe Amouyel, pour vous, qui est Dieu ?
Alors, c'est une très bonne question, dans la mesure où, vu ma profession, vu un certain nombre d'épreuves, je dois humblement vous avouer que Dieu est plus, pour moi... quelque chose qui est important pour les autres. Et si c'est important pour les autres, c'est que ça a une signification. J'ai un profond respect pour les gens qui ont cette croyance, quelle que soit la nature de cette croyance, parce que c'est quelque chose qui vous aide à vivre la vie quotidienne. Après, la réalité quotidienne que vous pouvez voir dans un hôpital, que vous pouvez voir dans un service d'urgence, la vie sociale qui est également traduite, fait croire en l'homme, surtout.
C'est l'homme.
En revanche, les hommes ont quand même besoin de croire en un idéal pour les aider à vivre.
Alors, aussi sur RCF, vous savez que notre slogan, c'est « La joie se partage ». Et j'ai envie de vous demander, Philippe Amouyel, ces dernières semaines ou ces derniers mois, quelle a été votre grande joie intérieure, qu'elle soit petite ou grande pour quelqu'un d'extérieur, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous a mis en joie dans un événement
dans les dernières semaines, c'est autour de mon petit-fils,
oui.
qui ne voulait pas parler, et puis qui, d'un coup, s'est mis à parler complètement. Ouais. Il n'avait pas envie de parler, ça ne lui était pas utile,
c'était
pas
tout
le monde anticipait, oui. et il s'est mis à parler, et là, il parle, mais il parle, il a 2 ans et demi, mais il parle extrêmement bien, il fait des choses très complexes, ouais. alors que pendant longtemps, il n'a pas voulu parler, il disait toujours oui. Oui. Ou non.
Il se faisait comprendre malgré
voilà,
tout.
Il se faisait très bien comprendre. De toute façon, c'était sa force. Et puis, à un moment, il s'est mis à parler.
Et maintenant, il a envie d'être en relation avec les autres.
Il n'arrête plus de parler.
Voilà.
avec sa sœur, avec ses parents, avec ses grands-parents. Il parle. Ouais. Chaque fois, il s'exprime. Donc, il a trouvé là un outil de communication et de lien intense.
Ça rejoint ce que vous disiez au début de notre échange. L'homme a besoin d'être en relation. Et à un moment donné, votre petit-fils avait besoin d'être non plus réceptif, mais aussi être en relation autrement en tant qu'émetteur.
Oui, et il faut savoir que c'est ce qui aide notre cerveau à se développer. C'est la relation sociale. La relation sociale est bonne pour notre capital cerveau, pour le développer en permanence. Il travaille en permanence. Et ce lien, cette relation, quelle que soit la relation, elle peut être agréable ou elle peut être désagréable. Oui. Les personnes qui vivent en couple font 20 à 30% d'Alzheimer en moins. Mais quel que soit le couple, que vous aimiez ou pas, il faut vivre à deux, il faut être avec d'autres.
Alors justement, là, je fais une aparté puisque vous l'évoquez. Là, 900 000 personnes sont touchées par Alzheimer aujourd'hui en 2021. 3 fois plus d'ici 20 ans. Est-ce qu'on saura un jour guérir cette maladie, l'Alzheimer?
Oui, ça, on finira par y arriver. C'est une maladie complexe qui touche l'organe le plus perfectionné de notre corps, qui est le cerveau. On comprend beaucoup de choses. On a fait des progrès absolument essentiels dans la compréhension. Mais bien sûr, ce qu'on voudrait, c'est un traitement qui l'arrête. Ce dont on s'aperçoit que c'est une maladie qui commence tôt, à bas bruit. On ne s'en aperçoit pas, 20 ou 30 ans avant. Donc on a une phase là, de traitement très précoce pour stopper cette évolution. C'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Mais il y a également tout un pan de prévention, comme dans toutes les maladies chroniques, que ce soit les maladies cardiaques. Alors certes, vous avez des traitements pour traiter les maladies cardiaques, mais l'hygiène de vie, la façon, l'activité physique, votre régime alimentaire sont des éléments importants aussi dans la prise en charge de la maladie cardiaque. C'est la même chose pour la maladie d'Alzheimer. L'activité physique, ce que vous mangez, vos relations, la stimulation cérébrale sont des éléments importants qui permettent de repousser l'âge de début des symptômes très tardivement. Et ce qu'on est en train de mettre en place... Alors c'est bien sûr des essais cliniques, c'est long, ça commence très doucement au sein des laboratoires. Ce sont des molécules qui vont permettre de stopper cette progression qui dure 20 à 30 ans. Donc il faudra probablement anticiper ceux qui vont avoir une maladie d'Alzheimer pour leur donner très tôt. Parce que quand on attend que les symptômes soient là, et c'est probablement la raison de l'échec de tous les traitements qu'on a depuis 25 ans,
il est
trop tard. Oui. Le médicament stoppe l'évolution de la maladie, mais il ne peut pas amener à la réparation des neurones détruits qui sont la conséquence de la maladie. Donc il faut le faire très tôt, pendant que le cerveau a encore des capacités d'adaptation, pour justement faire en sorte qu'on stoppe la progression et qu'on puisse vivre le plus longtemps possible.
Donc être en capacité de diagnostiquer 20 à 30 ans.
Alors, 20 à 30 ans, je ne pense pas, 5 à 10 ans suffirait.
Oui.
On commence à avoir les outils en laboratoire qui permettent de le faire. Donc c'est combiné à ces médicaments, il faudra probablement les donner avant que les symptômes apparaissent.
Alors, dernière question au nom de nos auditeurs. Hein. Qu'est-ce qui vous fait espérer, vous, Philippe Amouyel, quand vous regardez l'avenir?
Ah ben, les hommes, bien sûr.
Je me doutais.
Bien sûr, l'avenir ne se fait que par les hommes.
Ouais.
Parce que on parle beaucoup de choses. Là où j'ai vraiment eu, y compris dans cette phase de pandémie, j'ai un regard vraiment enthousiaste, vous allez dire, sur la nouvelle génération. Cette génération qui a maintenant 25 ans, ou même les plus jeunes, je trouve qu'ils sont très présents dans ce monde. Ils ont envie de le protéger, bien mieux que nous n'avons pu le faire dans notre génération. Ils sont tous très sensibles, alors c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais à l'écologie, à la façon de comment va évoluer leur monde. Ils sont souvent très généreux. Je vois souvent, quand je prends les transports en commun, des gens qui m'ont dit, des jeunes qui ont 15-20 ans leur donnent une somme, alors que des moins jeunes ne les regardent même pas. Donc je trouve que cette génération est, d'une manière générale, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus enthousiaste, et balaie un certain nombre de codes et d'une certaine rigueur purement sociale qui n'est pas forcément... offre de partage d'une manière générale. Donc voilà, l'avenir il n'est que dans l'homme et la femme, bien sûr.
Et vous témoignez du grande foi en la jeunesse, Et une grande confiance aussi en la jeunesse.
Oui, il faut leur faire confiance. Il faut absolument leur faire confiance. Il ne faut pas les regarder avec nos yeux. Ouais. Ils ont des idées qui sont adaptées à leur monde. Et nous, il faut qu'on les aide justement à pouvoir les réaliser.
Merci Philippe Amouyel pour ce temps d'échange que nous avons eu ensemble et qui nous a permis de mieux vous connaître au-delà de tous vos messages que vous nous témoignez, de vos recommandations aussi que vous nous témoignez par rapport à cette pandémie. Merci à vous.
Merci.